VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 25 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Tout d'abord les titres. Washington sanctionne 3 responsables maliens, dont l'actuel ministre de la Défense, pour avoir aidé le groupe paramilitaire russe Wagner. Rencontré hier au Burkina Faso entre une délégation de l'Union africaine et le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Au Sénégal, on déplore maintenant 18 morts après qu'une pirogue transportant des migrants clandestins a échoué à Wakam, en plein cœur de Dakar. Et au Cameroun, le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Douala s'alourdit à 37 morts. En Afrique du Sud, débat autour d'une loi favorisant l'emploi des Noirs. En Israël, le Premier ministre Netanyahou qualifie de nécessaire le vote d'une mesure de la réforme judiciaire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, les États-Unis ont annoncé hier des sanctions visant 3 militaires maliens. Washington les accuse d'avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. Yacouba Ouédraogo.
Ces sanctions visent 3 gradés de l'armée malienne, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, le colonel Alou Boua Diara et le lieutenant-colonel Adama Bakayoko, tous 2 responsables dans l'armée de l'air. Les avoirs aux États-Unis de ces 3 responsables sont gelés et il leur est interdit d'effectuer des transactions avec des personnes ou des entreprises américaines. Washington fait état de preuves montrant que ces responsables maliens ont contribué aux activités malveillantes du groupe Wagner au Mali. Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué, ajoute que ces militaires ont rendu leur peuple vulnérable aux activités déstabilisatrices et aux violations des droits humains du groupe Wagner et ouvert la voie à l'exploitation des ressources souveraines de leur pays au profit des opérations de Wagner en Ukraine. Selon les États-Unis, depuis l'arrivée de Wagner au Mali en décembre 2021, le nombre de victimes civiles dans ce pays a augmenté de 278%, surtout à cause d'opérations menées par les forces armées maliennes aux côtés de Wagner.
Au Burkina Faso, une mission d'évaluation de la transition du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine séjourne à Ouagadougou depuis samedi. Elle a commencé à rencontrer les différentes autorités, ces membres du Conseil qui resteront dans la capitale burkinabé jusqu'à demain, ont rencontré hier le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont été fructueux selon les membres de la délégation. C'est ce que dit le chef de cette délégation, l'ambassadeur Mohamed Lamine Tchao. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, a recueilli cette déclaration de M. Tchao.
On est venu ici dans le cadre du Conseil paix et sécurité et dans le cadre de nos échanges avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons essayé d'expliquer un peu les objectifs de notre mission, qu'il a bien compris et durant ces échanges, il a bien voulu apporter un peu sa contribution en nous expliquant un peu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et donc ses priorités. Je crois que les échanges ont été assez fructueux et donc il y a eu une approche consensuelle entre donc son Excellence Monsieur le Président de la Transition et le Conseil paix et sécurité. Après l'audience avec son Excellence Monsieur le Président de la Transition, nous allons mener les mêmes activités auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre, ensuite avec le système des Nations Unies, le corps diplomatique africain.
Mohamed Lamine Tchao, chef de la délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Au Sénégal, alourdissement du bilan du nouveau drame sur la route migratoire qui relie l'Afrique de l'Ouest aux Canaries, celui de la pirogue transportant des migrants clandestins qui a échoué à Wakam en plein cœur de Dakar. Le bilan initial de 15 morts a été revu à la hausse, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
18 morts, c'est désormais le bilan officiel du drame qui a eu lieu à Wakam sur la corniche ouest de Dakar. Trois nouvelles victimes se sont ajoutées aux 15 dénombrées en fin de journée par les sapeurs-pompiers. Ces derniers continuent les recherches malgré une météo très défavorable. La pirogue qui a échoué sur la plage de Wakam a pris départ au niveau du village des pêcheurs de Tcharoï et avait pour destination l'Espagne, comme la majorité des embarcations du genre. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'au moment où cette pirogue échouait à Wakam, une autre était sur le départ au niveau de Saint-Louis, mais les forces de défense et de sécurité l'ont interpellée à temps. Une information qui confirme la recrudescence des départs clandestins pour l'Espagne depuis les côtes sénégalaises depuis quelques semaines. Des départs récents qui ont déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Au Cameroun, le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Douala, la capitale économique, est passé à 37 morts lundi, alors que les secours continuent de fouiller les décombres. Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble d'habitation de 4 étages, situé dans le nord de la ville, s'est effondré sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage. Cet effondrement, l'un des plus graves de l'histoire du pays, a fait 37 morts et 21 blessés, dont 5 en urgence absolue, selon le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibua, et un officier des pompiers qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat. Les autorités ont déjà soulevé la question du respect des normes de construction. En RDC, le soldat congolais, auteur présumé d'une tuerie familiale qui a fait 13 morts, dont 9 enfants samedi en Ituri, dans le nord-est du pays, a été arrêté et sera jugé dès mardi, a-t-on appris lundi de sources militaires. Selon des témoignages recueillis dimanche, ce militaire n'avait pas supporté qu'un de ses enfants décédé en son absence, ait été enterré sans qu'il en soit informé. Revenu dans la localité du décès, le village de pêcheurs de Nyakova, en territoire de Djougou, il a ouvert le feu sur les personnes rassemblées pour le deuil de l'enfant. En Afrique du Sud, une nouvelle loi visant à accroître l'emploi des Noirs fait débat et suscite la colère d'entrepreneurs qui craignent la perte de postes pour les travailleurs qualifiés. Lionel Gahima.
La nouvelle loi oblige les entreprises de plus de 50 salariés à refléter la démographie de la région où elles opèrent. Le ministre du Travail, Tula Sanxesi, assure qu'il s'agit de promouvoir la diversité, mais ne signifie pas que les Blancs vont être éliminés pour laisser place aux groupes défavorisés. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, prévoit de manifester demain mercredi au Cap pour dénoncer le texte signé mais pas encore en vigueur. Son leader, John Steenhuisen, affirme que quelques 600 000 personnes vont perdre leur emploi parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur de peau. Gareth Ackerman, président de la chaîne de supermarchés Pick n Pay, accuse la loi de fragiliser les employeurs dont la main-d'œuvre ne reflète pas la démographie raciale. Pour lui, cela aurait pour effet de mettre au chômage un grand nombre de personnes qualifiées pour les remplacer par des personnes non qualifiées. Matthew Parks, porte-parole de la puissante COSATU, estime que la polémique est exagérée car c'est une loi rationnelle, pas le gros monstre que présente l'opposition sud-africaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié hier lundi d'étape démocratique nécessaire l'approbation par le Parlement d'une mesure importante du projet de réforme judiciaire porté par son gouvernement de droite à l'origine d'un vaste mouvement de contestation. Eric Manirakiza.
Cette étape vise à rétablir un équilibre entre les pouvoirs. Nous avons fait voter cette mesure afin que le gouvernement élu puisse mener une politique conforme à la décision de la majorité des citoyens, a affirmé M. Netanyahou lors d'une allocution télévisée. Cette mesure vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle a été approuvée par les 64 députés de la coalition du Premier ministre sur un total de 120. Les élus de l'opposition ont boycotté le vote. D'autres dispositions provoquent aussi le mécontentement, comme celle modifiant le processus de nomination des juges. La Maison-Blanche a qualifié lundi de regrettable l'approbation de cette loi. Après le vote, des policiers ont tenté d'évacuer des manifestants qui bloquaient des routes à Jérusalem et à Tel Aviv. Les manifestations ont attiré des Israéliens de tous les horizons politiques et sociaux, laïcs ou religieux, militants pacifistes, cols bleus ou travailleurs du secteur de la technologie, mais aussi des réservistes de l'armée.
La Minute Éco, Mohamed Oumfa.
Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé dimanche de nouveaux investissements dans son pays, notamment la construction de deux usines de transformation de coton dans la région de Koutiala et le district de Bamako. Il a ajouté que son gouvernement travaille à créer les conditions d'une croissance économique interne qui se fondera sur les nouvelles technologies ainsi que sur une industrie des transformations des ressources naturelles qui tient compte des opportunités de la transition énergétique. Des efforts collectifs sont nécessaires pour défendre le patrimoine naturel de la planète, a déclaré la ministre rwandaise de l'Environnement, Jeanne d'Arc Mujamariya, lors du Congrès international pour la biologie de la conservation qui se tient à Kigali depuis dimanche. La biodiversité n'est pas un luxe, c'est l'essence même de la vie. Il est temps que nous, êtres humains, fassions le lien entre la nature et le climat, a-t-elle expliqué. Le président tunisien Kais Saied a plaidé lors de la conférence internationale sur le développement et la migration en Italie pour l'instauration d'une nouvelle institution financière mondiale. D'après M. Saied, l'objectif de cette nouvelle institution serait de mettre en place un nouveau système humaniste capable de semer un espoir et de rendre ainsi la prospérité accessible à tous et pour tous.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les nouvelles du mondial féminin pour commencer, le Maroc corrigé hier par l'Allemagne.
Oui, début douloureux pour leur première Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont été laminés par l'Allemagne, vice-championne d'Europe 2022, 6-0, portée par leur attaquante star Alexandra Popp qui a inscrit un doublé. Les Allemands ont écrasé le Maroc dans un match à sens unique. Grâce à cette victoire, elles prennent la tête du groupe H et renforcent plus que jamais leur statut de favorite de cette Coupe du Monde. De leur côté, les Brésiliens ont disposé du Panama 4-0. Le Brésil prend seul la tête du groupe F, 2 points devant la France après son nul dimanche face à la Jamaïque 0-0. L'Italie a quant à elle peiné pour s'imposer face à l'Argentine 1-0, sauvée par un but inscrit en toute fin de match par Cristiana Girelli de la tête à la 87e minute.
Sur le marché des transferts, Wilfried Zaha rejoint Galatasaray.
L'attaquant international ivoirien, ex-buteur de Crystal Palace, s'est engagé avec Galatasaray. Après 13 saisons en Première Ligue, a annoncé le club turc. Un accord a été conclu pour 3 saisons, a indiqué Galatasaray, champion de Turquie en titre, dans un communiqué qui ajoute que Wilfried Zaha, 30 ans, touchera 4,35 millions d'euros par saison et percevra une prime à la signature de 2,33 millions d'euros. Hormis une quinzaine de matchs sous les couleurs de Manchester United et de Cardiff City entre 2013 et 2014, Zaha est resté fidèle à Crystal Palace depuis ses débuts en professionnel en 2010. Il a inscrit avec l'équipe londonienne 90 buts en 458 matchs. L'Ivoirien évoluera aux côtés de l'attaquant international congolais Cédric Bakambu, qui s'est engagé dimanche avec le champion de Turquie.
Le temps des négociations a débuté pour Kylian Mbappé.
Le PSG a commencé à recevoir des marques d'intérêt pour son attaquant vedette, dont une du Real Madrid. Le club saoudien d'Al Hilal a été autorisé à négocier avec Kylian Mbappé sur la base d'un contrat à 300 millions d'euros. Vendredi, le PSG a annoncé la mise à l'écart du champion du monde 2018 privé de stage en Asie. Mbappé évoque depuis longtemps son envie de rejoindre un jour le Real Madrid. Jusqu'alors, la Maison-Blanche était en position de spectatrice du bras de fer engagé entre Mbappé et le PSG. Le géant madrilène comptait plutôt récupérer le joueur libre en juin 2024 avec une prime à la signature colossale pour lui. Le joueur avait dit vouloir honorer sa dernière année de contrat avant de quitter Paris, ce qui a poussé le club de la capitale à réagir. Soit il prolonge, soit il doit être transféré dès cet été. Le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a martelé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas le voir partir gratuitement.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Sénégal et la pirogue transportant des migrants qui a échoué à Ouakam en plein cœur de Dakar. Dernier bilan, 18 corps sans vie ont été repêchés par les sauveteurs appuyés par des pêcheurs locaux. Un drame de plus dans la récente recrudescence des tentatives d'émigration clandestine. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay, fait le point.
Sur la plage de Ouakam, à quelques mètres du domicile du président Macky Sall, sur la corniche ouest de Dakar, une pirogue transportant des migrants a échoué. Les sapeurs-pompiers, qui ont été les premiers sur les lieux, ont repêché une quinzaine de corps. Mamoudou Seck, pêcheur établi à Ouakam, témoigne.
Les sapeurs-pompiers sont venus avec leurs équipements, des plongeurs, et ils ont vraiment fait le nécessaire. Les jeunes pêcheurs et plongeurs qui étaient de la localité se sont joints à eux. Il faut aussi préciser que personne ne connaît l'origine du drame et que la pirogue n'était pas de Ouakam. Il n'y a ni nom ni immatriculation sur la pirogue, mais juste un drapeau. Et je pense que les autorités feront le nécessaire pour identifier son propriétaire.
Souvent pointé du doigt, les pêcheurs se défendent d'être les marchands de la mort. Pour eux, l'immigration clandestine est un phénomène accentué par des affairistes. Elhaj Abdoulaye Sall est un pêcheur d'une trentaine d'années.
Nous sommes nés et avons grandi ici. Nous ne connaissons que la mer et ailleurs vous nous avez trouvés en train d'exercer notre métier. Ce phénomène doit interpeller l'État parce que ce sont des enfants qui meurent. Des mesures doivent être prises pour y remédier, mais il ne faut pas rejeter la faute sur les pêcheurs car nous sommes ici en train de travailler à la sueur de notre front.
Alors que beaucoup de Sénégalais considéraient le phénomène de l'immigration clandestine comme un vieux souvenir, elle semble avoir repris de plus belle ces derniers temps et inquiète une population choquée par ce drame qui s'est produit au cœur de la capitale. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
Reportage de Seydina, reçu hier lundi.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, près de deux mois après la suppression des subventions sur le carburant, les prix de l'essence à la pompe sont à leur niveau le plus élevé de l'histoire du plus grand producteur de pétrole du continent. Les Nigérians se plaignent des conséquences de cette hausse alors que le pays fait face à une inflation croissante. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Cette nouvelle augmentation des prix de l'essence à la pompe est la deuxième la plus significative depuis le 29 mai, quand le président Bola Ahmed Tinubu a annoncé la fin des subventions sur le carburant. La station-service Ring Oil de Gwarimpa, à la périphérie d'Abuja, ne connaît plus les longues files d'attente pour se procurer du carburant. Les automobilistes réagissent.
C'est très élevé. Il n'y a aucun moyen d'acheter du carburant à ce prix et survivre. Comment pouvez-vous survivre alors que vous avez une famille, des enfants qui vont à l'école, vous devez les nourrir, vous devez acheter des pneus et réparer votre voiture. Vous ne pouvez pas survivre. Donc, ce gouvernement devrait revoir à la baisse ce prix à au moins 350 naira. À 617 naira, c'est trop élevé. C'est beaucoup trop cher.
Nous avons déjà des problèmes et ils viennent en rajouter d'autres. L'augmentation des prix du carburant n'est pas la meilleure solution pour la situation économique du Nigeria en ce moment. S'il est possible pour M. le Président de revoir certaines de ses politiques parce qu'il vient de commencer son mandat.
Le prix de l'essence a presque triplé dans tout le pays. Dans les stations d'essence, il est passé de moins de 200 naira le litre à plus de 600 aujourd'hui. Cette augmentation alimente encore les discussions au sein de la population. Uche Nadji est chauffeur de taxi à Abuja.
La pression est tellement forte sur chaque famille en ce moment. En tant que chauffeur de taxi, je sais combien j'avais l'habitude de payer pour faire le plein. Avec 9000 naira, je faisais le plein de cette voiture. Et puis, je gagnais encore plus pour prendre soin de ma famille. Maintenant, vous savez, ils ont dit qu'ils ont supprimé la subvention. Puis nous nous sommes plaints et ils ont dit que tout ira mieux et nous avions accepté. Pourquoi cette nouvelle augmentation soudaine?
Les syndicats nigériens ont exprimé leur indignation face à la hausse du prix du carburant et ont menacé de se retirer des négociations avec le gouvernement fédéral à moins que les prix ne soient inversés. La subvention sur le carburant a été introduite dans les années 70, permettant jusqu'au 29 mai dernier de maintenir les prix bon marché pour des millions de Nigériens. Au fil des années, les subventions ont coûté plusieurs milliards de dollars à tous les gouvernements. Charles Abayomi, expert en pétrole.
I think it is imperative that the subsidy be removed.
Je pense qu'il est impératif que la subvention sur le carburant soit supprimée. Je le ferai par étapes si j'étais à sa place. Je le ferai ayant à l'esprit que le choc drastique que les Nigérians connaissent dans le secteur pétrolier n'entraîne pas la crise sociale que beaucoup craignent maintenant.
Les coûts de transport et les prix des denrées alimentaires ont continué de grimper. Tout est devenu plus cher avec la hausse du prix de l'essence. En juin, la consommation moyenne d'essence est tombée à quelque 48 millions de litres par jour, contre une moyenne quotidienne de presque 67 millions de litres en janvier, avant la suppression de la subvention. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Un groupe de 25 jeunes venus de 18 pays d'Afrique subsaharienne a visité une ferme agricole dans le Maryland dans le cadre du programme YALI. Après avoir participé à des activités dans les champs, ils ont préparé des plans africains, le tout accompagné de musique. Leur objectif était de découvrir les pratiques agricoles durables et aussi de promouvoir la diversité culturelle. Un reportage de Lionel Gahima et d'Eric Manirakiza qui relate cette journée de service, de gastronomie et de divertissement.
Lorsque ces jeunes arrivent à la ferme Florencia, ils sont chaleureusement accueillis par l'agriculteur Jean-Bert Kimans Manirakiza, qui est également le responsable de la ferme. À l'image du Mandela Day, qui s'appuie sur une invitation à consacrer 67 minutes de son temps au service des autres en reconnaissance aux 67 années consacrées par Nelson Mandela au service de l'humanité, ces jeunes leaders africains se lancent avec joie dans diverses activités économiques. Emmanuel Rwamba vient du Burkina.
Et en venant ici, eh bien, on découvre aussi qu'aux États-Unis, eh bien, il y a des agriculteurs qui ont des façons de faire qui sont similaires, d'accord, à ceux de l'Afrique. Et donc, ça a été vraiment un réel plaisir de venir prendre part ici dans ce community service, eh bien, à l'agriculture qui est faite ici. C'est une façon à nous aussi, eh bien, de redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné aussi de par la participation à ce programme.
Au fur et à mesure que la journée avance, une ambiance vibrante et joyeuse s'empare de la ferme. Guidés par leur enthousiasme, ils sont désormais déterminés à utiliser leurs connaissances et leurs expériences acquises pour contribuer au développement de leurs communautés respectives. Suivez respectivement Maounou Bédé du Bénin et Roselyne Tetchi de la Côte d'Ivoire.
En tant que nutritionniste, ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir visiter une ferme aux États-Unis. Une fois de retour au pays, d'abord même mon projet ici, c'est de voir comment faire pour aider les communautés à davantage lutter contre la malnutrition, à davantage lutter pour avoir une sécurité alimentaire.
Oh wow, c'est assez grand. Tout ce qu'il fait, c'est smart. Moins d'efforts physiques, mais une bonne production. Ce qu'ils utilisent pour produire, ce qu'ils utilisent pour irriguer, c'est assez smart, je pense. L'une des limites, peut-être c'est le coût d'acquisition, mais c'est des techniques dont on a besoin pour booster la production en Côte d'Ivoire, pour augmenter, accroître la production en Côte d'Ivoire, parce que on importe beaucoup.
Certains désireux de mettre en valeur leur héritage africain décident de préparer des plats traditionnels de leurs pays respectifs. Ndeye Bana Diop est sénégalaise.
Et là, je suis en train de préparer du riz à la viande, communément appelé ici jollof rice, la version sénégalaise.
L'air se remplit de délicieuses saveurs exotiques alors que les épices se mêlent aux arômes alléchants. La musique africaine résonne dans l'air, égayant les cœurs et invitant chacun à la danse. Ils repartent de la ferme avec des sourires inoubliables, des amitiés renforcées et un esprit de solidarité à cultiver la terre avec respect et à créer des ponts d'amitié qui transcendent les frontières.
Merci Eric. Des températures records devraient se poursuivre cette semaine dans plusieurs régions du monde. Les scientifiques lient les conditions météorologiques extrêmes au changement climatique. Et le pape François a exhorté les dirigeants du monde à le combattre. Le point avec Veronica Balderas Iglesias, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
De l'Espagne au Liban, aux États-Unis, la chaleur bat des records cet été. L'Organisation météorologique mondiale l'attribue au réchauffement climatique.
Bonjour.
Dimanche, le pape François a évoqué les souffrances causées par le changement climatique aux nombreux êtres vivants sur la planète et l'urgence de le combattre.
Je renouvelle mon appel aux dirigeants des nations pour qu'ils puissent faire quelque chose de plus concret pour éliminer les émissions polluantes. C'est un défi urgent qui ne peut être différé. Il concerne tout le monde. Protégeons notre maison commune.
Les populations sans logement et tous ceux qui ne sont pas habitués à de longues périodes de température torride pourraient être à risque, a averti le maire de Palm Springs, en Californie, Grace Elena Garner, qui a été interviewée par ABC News.
Lorsque votre corps n'est pas habitué à ces températures élevées, il peut subir un choc. Si nous ne nous assurons pas de mettre en place les actions dont nous avons besoin pour réduire les impacts du changement climatique, nous allons simplement voir la situation empirer.
Interrogé lors de l'émission This Week sur la chaîne ABC, si le changement climatique est une menace pour la sécurité nationale, le député républicain Michael McCaul a répondu :
Le climat change et quand vous êtes dans une zone aride, l'Afrique par exemple devient de plus en plus aride, ce qui aggrave la famine, le terrorisme.
La semaine dernière, la Chine et les États-Unis, les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, ont repris les pourparlers sur la manière de résoudre le problème, mais il n'y a pas eu de solution. Il faudrait un effort concerté pour faire avancer les choses, selon le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, dans l'émission This Week d'ABC.
C'est un problème qui peut être résolu, mais nous devons cesser d'utiliser des combustibles fossiles. C'est la seule solution à cet assaut massif contre l'humanité.
Les prévisionnistes s'attendent à ce que les vagues de chaleur se poursuivent encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans diverses parties du monde.
Ajoutons, Yacouba, que le mercure a frôlé les 50 degrés lundi en Tunisie, soit 6 à 10 degrés de plus que les normales de saison, ce qui a provoqué des coupures de courant et obligé de nombreux habitants à chercher refuge sur le littoral ou les plages, même la nuit. En Algérie voisine, les autorités étaient aussi en alerte avec des pics pouvant atteindre 48 degrés localement dans 5 préfectures de l'Est placées en vigilance orange. Dans les deux pays, des incendies violents ont été enregistrés au milieu d'une végétation surchauffée et privée d'eau depuis des semaines et au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est de l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi et toujours en cours selon un nouveau bilan publié par le ministère de l'Intérieur lundi soir. C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seludia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.